nous commémorons depuis un certain nombre de dimanches la réforme ou réformation du XVIe siècle, et aujourd'hui, nous aboutissons à certaines conclusions, ou nous tentons de le faire. Quelle est la portée pour notre temps de ce modèle de la réformation illustré par l'œuvre de Luther, de Calvin et d'un grand nombre d'autres? Nous allons partager le temps d'enseignement, le pasteur Zurcher et moi, et il y aura des moments pour les questions, pour les débats, qui pourront porter non seulement sur ce qui sera dit aujourd'hui, mais sur ce qui a été dit dans les dimanches précédents. Nous avons un peu d'avance, grâce à la maîtrise exemplaire du temps qu'a montré notre sœur Farah, donc merci, et je ne voudrais pas en abuser, moi j'ai une demi-heure maintenant, une demi-heure pour l'exposer. Je l'introduis en lisant un passage de l'Écriture sainte, dans la première épître de Jean, au chapitre 4, je lis les 6 premiers versets. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit. Examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. À ceux-ci, vous connaissez l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi leur parole est du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Le « nous » est sans doute tout spécialement celui des apôtres. Donc écouter les apôtres, c'est suivre l'Écriture. C'est à cela que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'égarement. Je voudrais vous faire part de manière schématique de réflexions relativement récentes que j'ai tenté de conduire. Si nous avions eu la classe d'institut biblique dans les groupes séparés, avec plus de temps, j'aurais développé davantage, mais je vais tenter cependant de vous faire saisir l'essentiel de ce que je crois vrai et utile en quelques minutes. Il s'agit de cerner la mission de réformateur, de le faire bibliquement. Qu'appelle-t-on réforme, réformation, avec une majuscule plus ou moins en tout cas, et quelle est la mission des réformateurs? Une fois que j'aurai dit quelques mots sur ce point, alors pour préparer l'application à notre temps, je mettrai en relief le mystère d'Antichrist tel que le Nouveau Testament nous en parle, et j'essaierai de montrer comment ce mystère d'Antichrist s'est manifesté au cours de l'histoire de l'Église. Il agit déjà, il est déjà là, au temps de l'apôtre Jean, et nous le dit dans le verset que nous avons lu, même si un Antichrist final et suprême est prévu tout à la fin, et il y a donc des manifestations de l'esprit ou du mystère d'Antichrist au cours de l'histoire de l'Église. J'essaierai de préciser un peu les choses à cet égard, ce qui nous permettra de déboucher sur notre vocation présente. Alors tout d'abord, la mission de réformer l'Église. Je pense que le modèle pour discerner ce qu'il en est, c'est l'Ancien Testament, parce que dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas jugé bon de donner des indications chronologiques. C'est au Père qui est réservé de connaître le jour et l'heure de la fin, et du coup, les premiers chrétiens ont pensé que ce serait pour très 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 bientôt. Ils n'ont pas envisagé, bien que Jésus ait dit que dans des paraboles, qu'il y aurait des délais et que les gens diraient « le maître tarde à venir », ce n'est pas démenti. Mais malgré tout, les premiers chrétiens ne pouvaient pas penser que ça durerait 2000 ans. Et du coup, l'idée d'une réformation nécessaire à un certain moment n'est pas présentée de manière très, très claire et distincte dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, là, vous avez au moins 15 siècles, et le Nouveau Testament nous montre que nous avons dans l'histoire de l'Ancien Testament des leçons qui nous sont données, qui ont été prévues pour nous. La première aux Corinthiens chapitre 10 le souligne très fortement. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et je crois qu'il y a des exemples de réformateurs envoyés par Dieu dans l'Ancien Testament. En un sens, tous les prophètes étaient au moins de petits réformateurs. Ils rappelaient l'instruction fondamentale que Dieu avait donnée par Moïse. Et Moïse a dit « Dieu vous enverra ». Donc des prophètes tels que moi, Deutéronome 18. Mais il y en a un qui, tout spécialement, est présenté comme le nouveau Moïse de l'Ancien Testament. Le grand nouveau Moïse, c'est Jésus. Mais des nouveaux Moïse de l'Ancien Testament, c'est Élie. Élie, premier livre des Rois, chapitre 19, on voit bien, il va lui-même aussi au Sinaï. Il a une révélation qui correspond à celle que Moïse avait eue. Et Élie, c'est le prophète réformateur. Les choses s'étaient vraiment gâtées dans le royaume d'Israël à son époque. Il y avait le culte des Baals, des Astartés, des idoles païennes mêlées au culte du Seigneur, l'Éternel. Parfois, c'était le culte de l'Éternel lui-même qui était modifié dans un sens idolâtre avec les jeunes taureaux, les taurillons, emblèmes de force, symbole de force et d'érotisme aussi d'ailleurs, pour tout le Moyen-Orient, avec le taureau à Bethel et l'autre à Dan. C'était prétendument pour le culte de l'Éternel, mais voilà la situation. Et Élie avait l'impression d'être resté tout seul. Alors Dieu lui a bien dit, non, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Mais il a été envoyé comme prophète réformateur. Je pense qu'on peut dire qu'il y en a un autre aussi, après la terrible épreuve, la destruction de la royauté, la destruction de Jérusalem, du Temple, un autre que le judaïsme a considéré comme un nouveau Moïse. C'est Esdras, avec l'assistance de Néhémie. Il a reconstruit la religion d'Israël, qui était vraiment en ruine après cette épreuve de l'exil pour le peuple qui était revenu à Jérusalem. Jérusalem n'avait pas de muraille, il y avait des Samaritains qui avaient le pouvoir, etc. Il y avait des familles qui s'étaient mêlées au peuple du pays, des familles de prêtres, et Élie donc, et Esdras figurent comme les deux grands réformateurs. Il y a réforme quand il y a une déformation très très grave. Il faut réformer quand tout est déformé, quand ce qui passe pour le peuple de Dieu est gravement déformé. Deuxième point, le Nouveau Testament, bien qu'il ne nous donne pas l'indication claire qu'il y aurait encore 2000 ans avant le retour du Seigneur, le Nouveau Testament enseigne quand même, et ça devrait prendre du temps, qu'une riposte diabolique va se développer dans l'Église ou dans ce qui usurpera le nom d'Église, mais qui sera officiellement le christianisme. C'est le mystère d'Antichrist. L'Antichrist, c'est le faux Christ. C'est l'adversaire du Christ, le mot anti a les deux sens. C'est l'adversaire du Christ, mais qui emprunte le nom du Christ, Antichrist, qui, le singe, dans le livre de l'Apocalypse, c'est lui la première bête qui est présentée, et on voit très bien qu'il est comme un singe du Christ, il est blessé à mort, puis il a l'air de ressusciter, tout le monde est excité. Nous avons la riposte du paganisme, l'idolâtrie, qui emprunte la forme chrétienne, qui se sert donc de l'image du Christ. En un sens, on peut dire que c'est une idolâtrie bien plus perfectionnée que la vieille idolâtrie la vieille idolâtrie, on adore un bœuf, un taureau, on adore des animaux, mais après que Dieu s'est fait homme en Jésus, c'est l'homme qui se fait Dieu. Et vous voyez la correspondance, il peut se présenter comme un faux Christ, adversaire du Christ. Le mystère d'Antichrist, je crois que c'est la riposte du paganisme qui emprunte les formes chrétiennes. Dans la seconde épître à Timothée, il nous est dit que un premier mouvement, déjà, se dessinait dans le temps des apôtres. C'est sans doute ce qu'on a appelé la gnose ou le gnosticisme qui a sévi surtout au second siècle. Et l'apôtre Paul dit, ils ont la forme de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Un emprunt d'apparence, de nom, mais en réalité, l'inspiration est profondément païenne. Que s'est-il passé au XVIe siècle? Quelle a été la conviction de Luther, de Calvin et des autres? Leur conviction a été parfaitement nette. C'est contre l'Antichrist qu'ils avaient à lutter. C'est contre la perversion de l'Antichrist qu'ils avaient à réformer l'Église. La déformation était terrible. Calvin emploie souvent le mot de dissipation, dit la pauvrette Église. Le christianisme officiel est un christianisme qui avait été profondément corrompu. Alors, il y avait les 7000 aussi, comme autant d'élits. Ne pensons pas que tous les chrétiens étaient devenus des idolâtres. Mais pour les réformateurs, il n'y a pas de doute que le christianisme catholique romain, tel qu'il était pratiqué par les masses du XVIe siècle, avec la papauté, c'était l'Antichrist. Ils le disent très très souvent. Le commentaire de Calvin sur la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, oui, il est question d'Antichrist, pas ce nom, mais l'homme de l'iniquité. Et c'est que Calvin dit, un enfant de 10 ans reconnaît à l'évidence que c'est la papauté. Il n'hésite pas. Et je pense que si on comprend le mystère d'Antichrist, comme j'ai dit, on ne peut pas rejeter là la conviction des réformateurs. Car en effet, ce qui est arrivé pendant le millénaire du cinquième, de la fin de l'an, ça commence déjà avant, je pense, à partir du quatrième siècle, à partir du moment où l'empereur se convertit et où le christianisme devient religion d'État et devient persécuteur. Ce qui se produit à partir de ce moment-là jusqu'au quinzième siècle, c'est une paganisation d'un grand morceau, au moins, du christianisme, d'une partie très importante du christianisme. Et j'ai quelques lignes que je peux vous citer d'un historien des religions, pas du tout évangélique, et qui lui-même trouve plutôt, je crois, satisfaisant, plutôt bien trouvé l'évolution qu'il décrit. Il s'agit de Mircea Eliade, considéré comme sans doute le plus grand historien des religions de sa génération. Rien que sa carrière, hein, c'était un Roumain. Il s'est déjà fait connaître comme à la fois écrivain et érudit dans sa jeunesse en Roumanie. Il est venu en France, il a eu une carrière française, écrit beaucoup de livres en France, à Paris, et puis il a ensuite une troisième carrière aux États-Unis. Il est devenu professeur à l'université de Chicago. Eh bien, voici ce qu'il écrit. À propos du christianisme qui s'est élaboré à la fin de l'époque des Pères de l'Église, donc à partir en gros du 5e, 6e siècle, et qui a duré tout le Moyen-Âge. Bon gré, mal gré, on finit par christianiser, entre guillemets, les figures divines et les mythes païens qui ne se laissaient pas extirper. Un grand nombre de dieux ou héros, tueurs de dragons, sont devenus des saints Georges. Les dieux de l'orage se sont transformés en sainte Élie. Les innombrables déesses de la fertilité ont été assimilés à la Vierge ou aux saintes. On pourrait même dire qu'une partie de la religion populaire de l'Europe pré-chrétienne a survécu, camouflée ou transformée dans les fêtes du calendrier et dans le culte des saints. L'Église a dû lutter plus de 10 siècles contre l'afflux continuel d'éléments païens, entendez appartenant à la religion cosmique, dans les pratiques et les légendes chrétiennes. Le résultat de cette lutte acharnée a été plutôt modeste. Il y a des gens dans l'Église qui ont essayé de lutter, mais sans beaucoup d'efficacité. Et un peu plus loin, donc c'est dans son livre « Aspect du mythe » qui a été publié dans la collection Idées chez Gallimard, hein, « La solidarité mystique avec les rythmes cosmiques, violemment attaqués par les prophètes de l'Ancien Testament et à peine tolérés par l'Église, est au cœur de la vie religieuse des populations rurales. » Vous voyez, je n'invente rien quand je parle de paganisation du christianisme dans ce qu'est devenu la chrétienté à partir de Constantin de la fin de l'Antiquité. Et c'est ce que les réformateurs ont diagnostiqué comme un effet du mystère d'Antichrist. Et comme Élie avait lutté contre les dieux païens mélangés au culte de l'Éternel, eh bien les réformateurs ont lutté contre la vénération des saints, le culte de la Vierge, en disant c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, c'est ce qui est dit. Et aussi une certaine conception, d'ailleurs, de la messe. Le catéchisme de Heidelberg dit de la messe, comme comprise, à ce moment-là, que c'est une abominable idolâtrie. Ça fait partie des termes du catéchisme, de ce qui a été très très largement diffusé au XVIe siècle. On peut dire que la réforme a été une grande réaction monothéiste, c'est-à-dire un seul Dieu, face à la dissipation dans une multitude de médiateurs dans ce catholicisme à la fin du Moyen-Âge. Passer par les saints pour atteindre Dieu, par la Vierge, même quelqu'un d'aussi remarquable, d'aussi beau, et que Calvin aimait citer, hein, que saint Bernard de Clairvaux, prie la Vierge, réconcilie-nous à ton Fils. Ce n'est plus Jésus-Christ le réconciliateur, il a besoin d'être réconcilié par la Vierge. Voilà dans quel état se trouvait la chrétienté, et c'est pourquoi il a fallu la réforme, la réformation. Et l'Antichrist précède le retour du Christ, donc les réformateurs ont cru que le Christ allait revenir alors tout de suite, au XVIe siècle. Luther a même eu l'imprudence d'écrire un livre, il était déjà fort âgé, au début de la décennie 40, où il faisait des calculs de date et où il prédisait le moment où Jésus allait revenir, au XVIe siècle. Et puis Jésus n'est pas revenu, l'histoire a continué. Et alors la question qui se pose, me semble-t-il à nous, c'est y a-t-il une autre forme du mystère d'Antichrist dans l'histoire de l'Église depuis et aujourd'hui ? Et il me semble que je dois répondre oui, et oui. Dans la chrétienté, ce qui passe pour chrétienté dans tous nos médias, et pour la piété de beaucoup de gens, hein, qui cherchent sincèrement, c'est une forme de christianisme mêlée de beaucoup de choses qui ne sont pas du tout chrétiennes, qui emprunte encore le langage du christianisme. Mais méfiez-vous quand vous lisez « Résurrection, la résurrection, nous fêtons la résurrection » pour une multitude de théologiens patentés, reconnus dans les universités, les facultés de théologie du monde chrétien d'aujourd'hui, ça ne veut pas du tout dire que le cadavre de Jésus est redevenu vivant dans son tombeau, que la pierre a été roulée. Non, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que la mort de Jésus a produit un effet de vie dans la communauté qui s'est créée après sa mort. La résurrection, c'est la vie des chrétiens. Vous voyez de quelle façon le message garde la forme la forme de la piété chrétienne et renie ce qui en fait la force. C'est récurrent. Il y a un théologien allemand, non évangélique, qui affirme clairement le caractère historique de la résurrection de Jésus. Il s'appelle Pannenberg, Wolf Pannenberg. Il a d'ailleurs prédit que dans un siècle, il a dit qu'il n'y aurait plus que les catholiques romains d'une part et les évangéliques d'autre part. Mais lui-même n'en est pas à proprement parler. Dans un petit livre d'un théologien catholique sur lui, qui s'appelle Ignace Berten, un Belge, je crois, voici ce que j'ai lu. Wolfhard Pannenberg est le seul parmi tous les théologiens catholiques ou protestants à considérer la résurrection de Jésus comme un fait historique. Alors, j'espère qu'il exagère quand même. Alors, nous ne comptons pas hein, pour lui. Voilà. Simplement, nous sommes complètement effacés du tableau. Mais pour qu'un auteur comme Ignace Berten ait pu écrire une telle phrase dans son livre sur Pannenberg, c'est bien que la situation, il y a une situation où le mystère de l'Antichrist agit dramatiquement, terriblement. Alors il y a la résurrection de Jésus, je commence par elle parce que c'est... Paul a tellement clairement dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, hein, Corinthiens 15, que j'ai commencé par là, mais il y a d'autres vérités tout à fait centrale, déterminante, la divinité de Jésus-Christ, elle est réinterprétée d'une façon qui la vide de son sens par une majorité, je n'hésite pas à dire une majorité, des théologiens, catholiques ou protestants, mais plus encore protestants sans doute, de notre temps, dans le monde actuel. Croire à la naissance virginale de Jésus, au miracle de sa naissance, mais je crois que la plupart ne peuvent pas m'y songer. Même des gens qui sont considérés comme conservateurs, on rejette cela, parce qu'ils rejettent l'autorité de la Bible, comme absolue, comme ils pensent que la Bible est pleine d'erreurs, donc qu'elle peut nous inspirer, mais c'est tout. Ça, c'est la situation concrète. Et pendant très longtemps, ces modernistes ou libéraux, comme on les appelle, donc, qui parlent selon le monde, et le monde les écoute. C'est la formule que nous avons lue dans la première épître de Jean. Ont laissé l'éthique chrétienne à peu près intacte, pendant assez longtemps. Mais, en un sens, c'est logique. Ils ne se soumettent pas à l'autorité de l'Écriture sainte. Et alors, pourquoi préserver l'autorité des commandements, c'est pourquoi vous avez en ce moment une telle offensive pour que les unions homosexuelles soient reconnues et même qu'on invoque la bénédiction de Dieu dans les églises sur elles, ce qui est déclaré une abomination dans des textes très clairs du Nouveau et de l'Ancien Testament. Non, voilà, on prétend le bénir. Ah, mais c'est l'amour, c'est l'amour. C'est là l'état de la chrétienté aujourd'hui. Et malheureusement, je suis obligé de dire que sur les bords, le mouvement évangélique lui-même n'est pas totalement indemne. On ne veut pas passer pour des intégristes réactionnaires, etc. Et donc on n'ose pas. Et il y a, au moins au bord du mouvement évangélique dans le monde, surtout dans le monde anglo-saxon, c'est là qu'il est le plus puissant et donc qu'il draine des adhésions qui ne sont peut-être pas très, très profondément motivées. Mais il y a tout un courant qui n'admet pas que la Bible soit sans erreur. Il y a tout un courant qui s'attaque au message de la croix de Jésus comme châtiment qu'il a subi à notre place. La substitution pénale, comme on l'appelle techniquement, Jésus s'est substitué à nous sous la peine que nous avions méritée, cela est rejeté par des théologiens qui se disent encore évangéliques. Et il y a un éditeur évangélique, en principe évangélique, il a commencé comme ça aux États-Unis, il a publié certains de mes livres, hein. Donc, qui a publié aussi un livre qui glorifie l'homosexualité, en considérant que affirmer l'hétérosexualité comme exclusive, c'est une hérésie. Donc, le mouvement évangélique lui-même n'est pas exempt de ces atteintes. Alors, je crois que nous devons dire qu'il y a une réformation nécessaire, si le Seigneur Jésus tarde, en tout cas, par rapport au visage qui est officiellement présenté comme visage chrétien, je crois que nous sommes obligés de dire que Dieu suscite, s'il le veut bien, des personnalités d'envergure, comme l'ont été Luther, Calvin dans le XVIe siècle. Ça, c'est la liberté de Dieu, qu'il le fasse ou non. Mais ce qui est notre responsabilité, alors, c'est d'être fidèles. Si nous sommes quelques-uns des 7000, d'être fidèles là où Dieu nous a placés. Voilà ce que j'avais à cœur de vous communiquer. Alors maintenant, nous pouvons prendre un moment pour des questions, jusqu'à midi 2, 3. Je pense qu'on peut dire à peu près ça. Et puis je te pourrais céder la parole à M. Zurcher. Donc des questions qui peuvent porter aussi sur les autres présentations qui ont été faites les dimanches passés. Oui. En effet, nous ne sommes pas astreints à un calendrier sacré particulier. Là, il faut le dire avec une entière netteté, non seulement Noël, mais Pâques et Pentecôte, nous n'avons pas l'obligation de célébrer ces fêtes-là. L'apôtre Paul dit très clairement que, au début du chapitre 14 de l'Épître aux Romains, qu'il y en a qui distinguent entre les jours, d'autres qui ne distinguent pas, que chacun est libre. Oui. Et lorsque les Galates se laissaient impressionner par le discours des gens qui disaient « Vous devez obéir aux fêtes juives », il leur dit « Vous retournez aux faibles éléments desquels vous étiez esclaves autrefois, vous païens, parce que ça revient au même. C'est un esclavage des éléments du monde. » Oui. Donc, nous ne sommes pas astreints au respect d'un calendrier. Mais étant libres, je crois que nous avons aussi le droit de tourner nos regards plus spécialement sur l'événement de la résurrection de notre Seigneur quand on le fait traditionnellement à Pâques, sur l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, et en ce qui concerne la célébration de la naissance de Jésus, personne ne sachant à quelle date exactement il est réellement né de l'année, je pense que nous ne péchons pas si nous le faisons en toute liberté. Si nous nous sentons obligés de nous soumettre à un calendrier, alors là, nous sommes déjà en train de glisser vers ce que le Nouveau Testament condamne. Voilà comment je réagirais. Alors pour la fête de Noël, ça a été en effet très très compliqué. D'abord, la guerre était fêtée dans les premiers siècles de notre ère, et on ne savait pas la date. Et puis, c'est quand justement le pouvoir politique est devenu chrétien, plus ou moins entre guillemets, que pour contrer les fêtes de la divinité solaire du soleil, au grand moment du solstice d'hiver, que l'empereur a décidé d'en faire la fête célébrant la naissance de Jésus. Suivant la logique, on ne détruit que ce qu'on remplace. Si on remplace la fête païenne par une autre fête, alors on a bien éliminé la fête païenne. Mais on peut aussi dire que quand on remplace par une fête païenne, le paganisme n'est pas éliminé. Oui. Alors c'est sûr qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui fêtent Noël d'une manière extrêmement païenne. Alors j'espère que nous ne le faisons pas, et nous le faisons dans la liberté si nous ne le faisons pas. Voilà. Voilà, alors je vais essayer de répondre à ce que j'ai compris. En ce qui concerne le mot de réforme, effectivement, il est susceptible d'interprétations assez diverses. Il n'est employé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament lui-même, dans nos versions courantes, et dans Hébreux 9, pour l'instauration de la Nouvelle Alliance. Là, l'auteur aux Hébreux donc, dit que les règles sur l'alimentation, cachère ou non, etc., c'était établi jusqu'à un temps de réforme, qui est manifestement, dans le contexte, l'instauration de la Nouvelle Alliance par la première venue de Jésus-Christ. Donc le mot peut être pris pour carrément le commencement du christianisme. Vous voyez, donc ça c'est un sens très très fort. Et puis on peut en parler pour des choses de moindre envergure aussi. C'est pour ça que j'ai essayé moi de cerner le sens du mot réforme en rapport avec l'appellation réformateur pour Luther, etc. Vous voyez, c'est en gros. Ça c'est le premier point. Deuxième point, la réforme du XVIe siècle, je crois qu'elle a été une réforme vraiment profonde et importante, mais elle n'a pas tout accompli, ça c'est d'accord. Et si nous ne sommes pas réformés au sens des églises réformées, c'est que nous pensons que nos pères en la foi du début du XVIIe siècle ont mieux vu ce qu'il en était de la doctrine de l'Église et du baptême. C'est pourquoi nous sommes baptistes. Donc c'est vrai que la réforme avait besoin là d'un complément, mais ça n'était pas une modification de l'envergure de celle du XVIe siècle, et donc moi je n'emploie quand même pas le mot réforme, en tout cas pas avec une majuscule, pour cela dont nous sommes héritiers, mais bien sûr, cela est important. Mais je voudrais vous lire aussi une citation d'un historien qui était professeur à l'université de Harvard, qui résume ce qui a été fait par la réforme du XVIe siècle, même dans ses formes les moins rigoureuses, qui ont laissé quand même encore des éléments qui nous semblent catholiques. Ce qui a disparu chez tous ceux qui sont entrés dans le mouvement de la réforme. Le jeûne obligatoire, la confession auriculaire, le culte des saints, des reliques, des images, les indulgences, les pèlerinages avec les sanctuaires de pèlerinage, les veilles, les masses hebdomadaires, mensuelles, annuelles pour les morts, la croyance au purgatoire, l'usage du latin, le sacrifice de la messe, beaucoup de cérémonies religieuses, de fêtes, de jours fériés, les heures canoniques, les monastères et les ordres mendiants, le sacrement du mariage, de l'extrême onction, de la confirmation, de l'ordre, c'est-à-dire faire des prêtres, et de la pénitence, le célibat clérical, l'immunité clericale du clergé par rapport aux impôts civils, au fisc civil et une juridiction criminelle à part, les bénéfices conférés pour une abbaye, à des non-résidents, le droit canon, l'autorité épiscopale et pontificale. Toutes ces choses ont été éliminées partout où la réformation a eu de l'effet. C'est pas rien, hein. C'est vraiment la face du christianisme telle qu'elle apparaissait, qui a été changée. Oui. C'est pour ça que je pense que le mot de réformation peut être appliqué. Alors, peut-être encore un mot, mais il n'y aura plus qu'une seule question alors après. Hein. Encore un mot pour dire que Vatican II, le Concile Vatican II, a été un concile de modification forte, considérable pour l'Église catholique, et que déjà celui de 30 au XVIe siècle avait, par contre-coup de la réforme protestante, quand même nettoyé pas mal de choses, changé des choses. Je crois pourtant que les problèmes fondamentaux, les plus profonds, n'ont pas été résolus. Et cette adaptation au monde, moi je l'attribuerais pas tellement à Paul VI. Paul VI, d'après ses entretiens avec le philosophe Jean Guiton, qui les a publiés, s'alarmait. Il avait l'impression que le monde envahissait l'Église et il en était angoissé, Paul VI. Mais c'est spécialement Paul VI, hein. Celui qui a voulu adapter l'Église au monde moderne sous le mot d'aggiornamento, mettre au goût du jour, mettre à jour, donc au goût du jour, ça c'est Jean 23. Beaucoup plus fêté par nos médias, hein, forcément. Ça ce qu'il aura plu. Voilà, Jacques Richard.
Pour revenir à l'actualité, est-ce que tu pourrais nous dire un mot de ce qui s'est passé entre le vent protestant, avec le mouvement des chrétiens et des catholiques, et la position que le Conseil national des évêques de France a pris à la personne du CNR de l'Église?
Alors, je dis ce que j'ai lu, ce que j'en ai touché un petit peu un mot avec Monsieur Lermenot, à lui dire mon soutien, etc. Mais je n'ai pas une information très détaillée. Donc, il y avait un grand rassemblement protestant dans lequel le Conseil national des évangéliques de France, CNEF, avait décidé de participer, puisque c'était toutes les tendances du protestantisme. Bon, être là, ne pas une politique de la chaise vide. Et donc, il était prévu, et les évangéliques d'Alsace ont beaucoup travaillé pour préparer ce grand rassemblement qui avait lieu à Strasbourg. Et puis, pratiquement au dernier moment, M. Lermenot et ses collègues se sont aperçus que le culte, qui était un culte commun, organisé, faisait place à un courant qui réclame le droit entier des homosexuels à la bénédiction, à l'approbation, qu'ils allaient participer au culte lui-même, pas seulement avoir un stand parmi les stands du rassemblement. Alors là, Monsieur Lermenot et le directeur avec lui, etc., je crois que le conseil n'a pas pu se réunir immédiatement à ce moment-là, mais les responsables majeurs ont décidé de se retirer. Et je pense que le conseil représentatif approuve cette décision, je l'espère en tout cas. Moi, je suis du conseil consultatif Et je lui ai dit mon entier soutien. J'étais très heureux quand j'ai appris cette démarche de courage et de loyauté. Mais il a été très vilainement attaqué pour cette raison même. Bien sûr, le lobby LGBT a vraiment ses leviers, ses éléments de commande dans le monde des médias, y compris religieux. Et donc là, cette décision, qui à mon avis était nécessaire, a été attaquée avec virulence. Oui, je crois. Oui. Je peux finalement, donc, pour dire un témoignage personnel. Pour moi, je l'ai vécu à quelques reprises, c'est une situation très délicate que celle des services de scène dans des rassemblements de ce genre. Il m'est arrivé de ne pas participer à la scène. J'avais pourtant eu part au programme, un grand rassemblement protestant de La Rochelle, par exemple. Il m'est arrivé de me sentir la liberté de participer, parce que les choses avaient été présentées, et la prédication avec netteté sur le Christ crucifié. C'est très très délicat de savoir ce qui doit être fait. Là, je demande au Seigneur de me donner à la fois discernement et courage, droiture en la matière, mais c'est une question délicate. Mais dans le cas de Strasbourg, pour moi, la décision alors ne pouvait pas faire un pli pour un évangélique conséquent, et je suis très heureux de la décision qui a été prise. Je crois qu'elle honore le Seigneur par M. Lermenot, Étienne Lermenot, et les autres. Merci. C'est maintenant.
Je vais demander peut-être à Stéphane de nous faire un petit interlude musical comme ça à la volée, si c'est possible pour toi. Et ça nous permettra d'entrer dans le deuxième temps que nous avons.